Nous sommes invités à prendre nos tablettes, nos bibles, peut-être nos smartphones, je ne sais encore quel appareil que nous disposons, et suivre ensemble la lecture qui sera faite dans Marc chapitre 8. Nous lirons les versets 27 à 29. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et il leur fit en chemin cette question: « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent: « Jean-Baptiste. » Les autres: « Élie. » Les autres: « L'un des prophètes. » « Et vous ?» leur demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit: « Tu es le Christ. » Voilà, que Dieu puisse bénir cette lecture et son influence dans nos cœurs. Je laisse la place maintenant à Stéphane.
Eh bien, je vous salue fraternellement, Jésus-Christ. Ça fait plaisir de voir tous vos sourires. C'est pour moi un privilège de pouvoir me tenir devant vous ce matin afin de partager quelques mots ensemble, partager une réflexion. Et je souhaite remercier d'une manière spéciale, en ce premier sabbat de l'année, toutes les personnes qui font que nous pouvons venir adorer dans une chapelle qui est bien entretenue, qui est propre, qui est décorée avec des fleurs. Donc je remercie toutes les personnes qui s'investissent personnellement, qui investissent de leur temps bénévolement. Je remercie aussi les personnes qui passent du temps à répéter pour pouvoir nous conduire dans des chants, dans cette adoration. C'est un privilège et je remercie, je loue le Seigneur pour cela. J'espère que vous êtes contents d'être là. Je suis content d'être là parce que c'est pour nous un privilège exceptionnel de pouvoir, avec liberté, réfléchir sur l'amour de Dieu, son action puissante dans nos vies et son plan d'amour pour nous. Il y a tant de personnes qui aspirent à avoir une espérance, quelque chose à quoi s'accrocher et qui, hélas, n'ont rien. À nous maintenant de vivre cet évangile pour que ces personnes-là puissent entendre parler de Jésus. Alors, une nouvelle année commence, c'est une nouvelle année dont le livre est vide. Tout reste à écrire. Tout reste à écrire dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, ecclésiale, dans notre vie spirituelle. Et mon souhait, c'est que tout ce qui sera écrit soit de bonnes choses pour la gloire de Dieu. Alors, connaissez-vous la mode selon laquelle des amoureux attachent des cadenas aux barreaux d'un pont? Ça vous dit quelque chose? On va attacher un cadenas aux barreaux d'un pont. Donc, ça se faisait surtout à Paris. Il y avait le pont des Arts, le pont de l'Archevêché aussi. Et alors, cette mode peut être qualifiée de superstition ou de symbole. Alors personnellement, je ne vais pas porter de jugement sur cette tradition. Toutefois, je vous exhorte, je nous encourage, quitte à vouloir symboliser notre attachement à Jésus, à le faire par de bonnes œuvres, par les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions, et à considérer ces bonnes œuvres comme autant de cadenas d'or qui scelleront nos choix et nos actions dans les allées de la véritable cité d'or et pour l'éternité. Inclinons la tête, notre Dieu, notre Père, bon Père céleste, nous te remercions pour ta présence ici ce matin et nous t'invoquons afin que tu prennes toujours plus de place dans notre cœur et dans nos vies. Parle-nous, ouvre nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alors, le fait d'attacher un cadenas à une grille, ça peut susciter plusieurs opinions. On est d'accord ? Alors ça peut faire sourire, ça fait sourire, ça nous passe au-dessus de la tête. D'autres vont y croire dur comme fer. Ils seront convaincus que la volonté de la mairie de Paris de mettre un terme à cette pratique, qui est dangereuse pour le pont en lui-même, à cause du poids, eh bien cette volonté, c'est une attaque contre leur couple, c'est une volonté de mettre à mal leurs vœux, leur engagement l'un envers l'autre. Pour d'autres personnes, bah, c'est une manière de dire que voilà, nous avons dépensé beaucoup d'argent pour venir à Paris et pour venir attacher un cadenas à un pont. Et voilà, on y était, quoi. Il y a donc des opinions, toujours des opinions, des avis sur des choses. Et il y a aussi des avis sur Jésus. C'est un peu ce que nous voyons ici dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons aussi des opinions différentes et rien de nouveau sous le soleil. À l'époque de Jésus, chacun avait aussi son opinion. Alors le récit de Marc, que nous avons lu, peut se décomposer en 5 grandes parties. Une première partie qui va être consacrée au début du ministère, la présentation. Une première partie qui va être consacrée au début du ministère, la présentation. Une seconde, le ministère de Jésus en Galilée. Une troisième, le ministère de Jésus en Judée. Ensuite, la passion du Christ et sa mort. Et enfin, la résurrection. L'extrait qui nous intéresse ici se situe à la fin du ministère de Jésus en Galilée. C'est une période que Jésus a passée en terre païenne. Il a guéri des malades à Génézareth. Il a chassé un esprit impur de la fille d'une femme syrophénicienne qui s'était jetée à ses pieds. Il a pour le moins guéri un sourd-muet, un aveugle. Il a nourri 4000 hommes. Et c'est aussi à ce moment-là que des pharisiens viennent à sa rencontre et lui demandent, pour l'éprouver, qu'il fasse un signe qui vient du ciel. C'est ce que nous lisons, Marc 8, verset 11. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Pourquoi demander un signe ? Alors Jésus, lui, va refuser d'opérer ce miracle. Le Seigneur n'est pas venu faire un show sur terre, mais il est venu sauver l'humanité. Il est vrai que les miracles, les signes ont été à maintes reprises employés par Dieu pour attester de sa volonté. On se rappelle les plaies d'Égypte, la mer Rouge, ou encore les différentes délivrances miraculeuses qu'il y a eu à l'époque d'Israël. Toutefois, Jésus refuse et poursuit sa route. Il refuse car des miracles venant du ciel ont déjà eu lieu. Il y a eu le chant des anges, entendu par les bergers, l'étoile qui a guidé les mages, il y a eu la colombe et la voix céleste durant son baptême. De plus, tous les miracles et actions du Seigneur en faveur du bien d'une humanité malheureuse attestait de manière claire et évidente que Jésus était d'origine divine. Cela révélait le caractère de Dieu. Et donc il n'y avait pas de doute par rapport à Jésus. Pas besoin de demander un signe venant du ciel. Jean 3, verset 2, nous lisons « Rabbi, nous, c'est-à-dire les pharisiens, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc la chose est claire. On pourrait dire alors qu'il n'y avait par conséquent plus de doute sur Jésus, plus de doute sur son origine et sa mission. Cependant, les versets 27 et 29 de Marc 8 présentent une requête d'opinion, un sondage. Jésus veut savoir comment il est reconnu par les personnes de la région, par le peuple. Alors c'est ce que nous lisons, Marc 8, 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée et de Philippe, et il leur posa en chemin cette question : « Qui suis-je au dire des hommes. Qui suis-je au dire des hommes ? Jésus ici va s'enquérir auprès des disciples de l'opinion du peuple à son sujet. C'est étrange puisque Jésus est celui qui connaît toutes choses, n'est-ce pas ? Il sait lorsque quelqu'un a touché son vêtement pour être guéri. Il sait que la foule a faim. Il sait que les disciples sont en difficulté sur le lac. Il les voit alors qu'il est encore à terre. Et pourtant, Jésus vient ici demander ce qu'on pense de lui. Qui dit-on que je suis ? Alors bien sûr, les disciples répondent, « Rabbi, ben, le peuple te considère comme Jean-Baptiste, pour certains. Pour d'autres, ils te considèrent comme Élie, ou encore l'un des prophètes. » En lisant ce passage pour la première fois, on peut être étonné par cette réponse des disciples. Eh bien, le peuple te considère comme Jean-Baptiste. D'autres te considèrent comme Élie. Ils répondent à Jésus que les disciples, que le peuple, même celui d'Israël, finalement, ben, on ne sait pas précisément à qui on a affaire avec toi. Qui es-tu, Jésus ? Des miracles ont été opérés par le Seigneur depuis plusieurs années, des discours ont été tenus, des paraboles pour expliquer le royaume des cieux. Et pourtant, on ne sait toujours pas vraiment à qui on a affaire. Il existe toujours des opinions divergentes. Les choses ne sont pas claires. Alors, la première réponse proposée ici par les disciples, c'est que Jésus serait Jean-Baptiste. Ou, plus précisément, la résurrection de Jean-Baptiste. C'est en tout cas l'opinion du roi Hérode. Le roi Hérode a fait décapiter le prophète et il a été troublé par le fait qu'un homme célèbre opérait des miracles. Marc 6, 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus. Jésus dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Qui était donc Jean-Baptiste ? Parce que le peuple considérait Jésus comme Jean-Baptiste. C'était qui Jean-Baptiste ? Alors d'après Jésus, Jean-Baptiste c'est le plus grand des prophètes, envoyé de Dieu pour préparer son chemin. C'est lui qui a eu l'honneur de baptiser le Seigneur. Il avait un message puissant qui appelait à la repentance en vue du pardon. Il avait pour mission d'aplanir la route du Seigneur, de préparer sa venue. En qualité de prophète, sa mission était de ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est avec autorité qu'il dénonçait le péché et l'hypocrisie de la classe dirigeante de la société. Matthieu 3,7 nous dit « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, Jean-Baptiste leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Voilà, donc on a affaire à un homme qui n'est pas impressionné et qui parle avec franchise. Tellement de franchise que Jean-Baptiste se mit à dos Hérodias, la femme d'Hérode, dont il dénonçait le mariage avec le roi, et elle finit par avoir sa tête. Alors l'autre personnage auquel Jésus va être comparé, c'est Élie. Élie, quoi. Il s'agit d'un personnage emblématique. C'est pas n'importe qui. Élie le Tishbite, pour d'autres, parmi le peuple, c'est Jésus. Enfin, Élie, c'est Jésus. Enfin, Jésus est Élie. Élie, le faiseur de miracles, cette fois-ci. Hein? Celui qui fait des guérisons. Alors que le peuple d'Israël, avec à sa tête Achab et Jézabel, s'enfonce toujours plus dans l'idolâtrie, Élie se mit à prier avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et demi. Le pays ruiné par la sécheresse, Élie se présente de nouveau au roi et lui dit de convoquer le peuple afin qu'il assiste à la révélation du Dieu vivant et à la manifestation du caractère trompeur du faux Dieu, le faux Dieu de la pluie Baal. Alors c'est à l'appel d'Élie que l'Éternel fit tomber le feu du ciel, tiens, un signe venant du ciel. Dieu fait tomber du ciel un feu qui consomme tout entier le sacrifice avec l'eau. Le signe venu du ciel s'est réalisé durant le ministère d'Élie et le peuple sut indubitablement que l'Éternel était le Dieu vivant. Baal était démasqué, le peuple assuré de l'existence d'un seul Dieu. Élie, sur le mont Carmel, fut un grand leader spirituel, un sauveur d'Israël, par sa foi et sa fidélité à Dieu. Alors ces deux portraits d'un homme faisant des miracles et d'un homme qui prêche avec autorité, finalement, ils correspondent bien à Jésus. Jésus était celui qui a opéré de grandes guérisons. Il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a prêché avec autorité. Il a parlé comme jamais personne n'avait parlé auparavant. Donc finalement, le peuple ne se trompait pas vraiment, a priori. Effectivement, c'était a priori juste de comparer Jésus à Jean-Baptiste ou Élie. Mais c'était faux. Finalement, parmi le peuple, et de tout ce qui se disait, la grande majorité des personnes ne voyaient en Jésus qu'un prophète. Alors la réponse ici des disciples, c'est une déception. Parce que ça veut dire que le Messie promis, le Messie tant désiré, n'était pas reconnu. Il n'était pas reconnu comme Messie. Israël, le peuple de l'Alliance, ne voyait dans le Seigneur, en dépit de toutes les manifestations entourant son ministère, qu'un prophète. Alors Jésus poursuit son sondage. Et nous lisons Marc 8, 29. « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre de répondre, « Tu es le Christ. » Ouf. Les disciples, en tout cas Pierre, ils ont donné la bonne réponse. Jésus est le Christ, loin de Dieu, celui en qui l'Éternel a mis toute son affection. Il n'est pas simplement un prophète, il est la vérité, le principe de la création. Il est celui en qui nous avons la rédemption, celui en qui nous avons le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né, c'est-à-dire le chef de toute la création. En lui, tout a été créé, toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en Jésus. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus, par le sang de sa croix. Et nous, qui étions autrefois étrangers et ennemis par nos pensées et par nos mauvaises œuvres, il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour nous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. En répondant « Tu es le Christ », ni Pierre, ni les disciples à ce moment-là ne comprenaient ce qu'il disait, ne comprenaient la portée de ces mots. Dans les versets suivants, Jésus doit leur expliquer qu'il devra beaucoup souffrir et être rejeté par les principaux du peuple, et qu'il sera mis à mort, mais qu'il les ressuscitera 3 jours après. Devant cette réalité peu reluisante qui met à mal tous leurs rêves de gloire et d'orgueil, Pierre pense devoir reprendre le Seigneur qui semble avoir perdu l'esprit. Marc 6, 32, il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Matthieu nous dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, verset 33, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Chers amis, chers frères et sœurs, En ce début d'année, je souhaite que nous puissions nous poser la question. Qui sera Jésus pour moi en 2015? Jésus sera-t-il celui qui va me servir de prétexte, qui va me servir de, qui va me permettre d'avoir bonne conscience? Voilà, je suis chrétien après tout. Je ne suis pas comme ces personnes qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Jésus sera-t-il celui qui va être comme un génie? Le génie, celui qui habite dans une lampe, et à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on frotte la lampe, et puis le génie apparaît. Et il exauce nos souhaits, nos vœux. Jésus sera-t-il présent dans ma vie simplement le sabbat ou tous les jours de l'année? Jésus sera-t-il présent dans ma vie pendant les périodes où je serai en difficulté? Et quand tout va bien, qui est Jésus? Est-ce que je vais me confectionner un Jésus sur mesure? Ou bien est-ce que je vais accepter Jésus tel qu'il est? Non pas comme j'ai envie de le voir, peut-être un prophète, un génie, mais est-ce que je vais accepter Jésus tel qu'il est, comme le principe de la création, le Seigneur, celui qui est le Seigneur de ma vie, le patron de mon cœur, celui qui a autorité sur mes décisions et mes choix? Est-ce que je vais considérer Jésus comme celui qui me donne la possibilité d'abandonner le péché, celui qui me libère du passé, celui qui me libère de la culpabilité du passé, cette culpabilité que je traîne depuis des décennies et qui m'empêche d'être heureux? Jésus sera-t-il celui qui va me réconforter, m'encourager, celui vers qui je vais courir quand les choses seront plus difficiles? Nous avons peut-être lutté en 2014, spirituellement j'entends, peut-être aussi autrement. Et je veux qu'en 2015, aujourd'hui, ce soit pour nous l'opportunité de donner à nouveau notre cœur et notre vie à notre Seigneur Jésus. L'opportunité pour nous de le suivre là où il ira. L'opportunité pour nous d'accepter de nous renier nous-mêmes, de nous charger de notre croix et de le suivre. L'opportunité pour nous de voir en Jésus celui qui m'aime plus que tout. Celui qui ne va jamais m'abandonner. Celui vers lequel je pourrai toujours me tourner avec confiance. Accepter la possibilité que Jésus puisse nous transformer de telle sorte que nous puissions être une source de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Alors, je sais que les choses peuvent être impressionnantes. Mais je sais aussi que le Seigneur est capable de délivrer, de soulager, de réconforter. Aujourd'hui, je suis devant vous et je prêche. Gloire à Dieu. Il y a de cela quelques années, c'était spirituellement difficile pour moi. En 2006, j'étais en difficulté spirituelle, on va dire ça comme ça. J'ai voulu aller mieux spirituellement et je me suis tourné vers Jésus. Et j'ai prié de tout mon cœur et j'ai demandé à Dieu de me délivrer, de me rendre fort en Jésus, de me donner de l'assurance. Et à genoux, alors que je priais et que je donnais à nouveau mon cœur à Jésus, je me suis senti léger, libéré d'un poids. Je crois que Dieu opère encore en 2015. Et je souhaite nous inviter, tous ceux qui le veulent, si vous souhaitez redonner votre cœur à Jésus, appelez le Seigneur afin qu'il soit le Christ de votre vie, le principe de vie, le Seigneur et le Sauveur. Si vous voulez que durant cette année 2015, demandez au Seigneur à ce que votre vie spirituelle soit consolidée, fortifiée, je vous invite là où vous êtes à vous lever et Laurent priera pour nous, à vous lever pour dire au Seigneur que vous voulez faire cet acte de foi. On ne sait pas comment l'année va passer, mais nous croyons, par la grâce de Dieu, que le Seigneur est capable de faire de grandes choses, qu'il nous fera du bien et qu'il sera là pour nous. Alors tous ceux qui le souhaitent, je vous invite à vous lever. Laurent, est-ce que tu peux venir ? Et Laurent priera pour nous d'une manière toute spéciale. Pour que mon Jésus, mon Seigneur, soit véritablement le Christ de ma vie chaque jour en 2015.
Oui Seigneur, nous voulons répondre ce matin à ton appel. Et debout, sincère devant toi, nous voulons pour ce premier sabbat d'année t'offrir nos vies à nouveau. Fais de nous, Seigneur, des hommes fortifiés en toi, qui es-tu, Seigneur Jésus ? Est-ce que vraiment nous avons pris le temps de te connaître ? Et cette fois-ci, tu nous tends à nouveau la perche et tu nous dis, viens. Et nous qui sommes là debout, nous attendons. Et nous sommes prêts, Seigneur, à marcher à nouveau avec toi. Alors, merci de nous soutenir. Merci de nous donner, Seigneur, les éléments nécessaires afin qu'au matin, nous puissions prendre du temps avec toi. Que nous puissions, au cours de notre journée, nous poser pour nos familles, pour notre époux, notre épouse. Fais que nos foyers soient des zones de paix où, lorsque ceux qui arrivent trouvent un Jésus dans ce foyer. Père éternel, cette communauté qui est la tienne, tu la veux forte. Cette église, tu viens bientôt la chercher. Une église sans tâche. Mais comment pourrions-nous être sans tâche si tu n'es pas avec nous ? Alors nous voulons te dire merci de ta présence dans notre vie. Merci de ta présence pour cette nouvelle année que nous voulons commencer avec toi. Aide-nous, par ta grâce, à réaliser ce vœu et à marcher, quoi qu'il en soit, main dans la main,